Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode et ils lui disent: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta: Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit: Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien, nous sommes un petit peu pressés, les moustiques sont au rendez-vous. Comme ça, le monde animal et là, bien. Il faut aimer tout ce qui est mystique. Il faut aimer tout ce qui est tout ce qui vit. Parce que tout ce qui vit prend racine quelque part, prend racine sur une terre, et sur cette terre nous marchons. Alors, par respect, j'allais dire, pour les pas qui nous mènent à Dieu, on respecte les plantes. Et on respecte les animaux. On aime les animaux. Les animaux, du reste, souffrent. Les plantes aussi. Mais il n'y a pas que l'homme qui souffre. Et il n'y a pas que Dieu qui souffre. Tout est en souffrance, j'allais dire, dans les douleurs de l'enfantement. Et toutes les douleurs de l'enfantement ne peuvent s'expliquer que par l'amour de Dieu. C'est l'amour qui peut donner naissance à quelque chose, dans quelque chose qui est alimenté tout le temps pour un amour plus grand. Et vous voyez, par exemple, quand on cueille une fleur ou qu'on arrache une fleur, c'est pas pareil. Quand on marche dans une prairie et qu'une fleur est écrasée, elle souffre, si vous voulez, la fleur. Elle n'a pas une conscience spirituelle comme nous, une conscience psychologique comme nous. Elle n'est pas traumatisée, c'est vrai, elle n'est pas traumatisée, mais elle souffre. D'accord, c'est une souffrance végétative. Mais quand on t'arrache une main, c'est une souffrance végétative aussi. Si on te brûle la peau, c'est une souffrance végétative, c'est pas une souffrance psychologique. Toi, t'en es traumatisé, mais ce qui te fait mal sur le moment, c'est bien la souffrance végétative. Il ne faut pas influencer les souffrances. Je sais bien que les fleurs n'ont pas d'âme spirituelle, que les animaux n'ont pas d'âme spirituelle, c'est vrai. On est tout à fait d'accord. Mais les animaux aussi, ils sont traumatisés quelquefois, vous savez, par cette souffrance de toute la nature. Il y a même dans le domaine microcellulaire, macrocosmique, une souffrance, quelque chose qui vibre en écho de la souffrance, une souffrance qui est due au péché. Une souffrance qui est due au péché. Et essentiellement par le péché, l'action, c'est le péché par commission. Parce que tout l'amour qu'on ne vit pas, C'est ça qu'on laisse vivre les moustiques. Alors, pauvre moustique, c'est vrai. Alors, à chaque fois, vous savez quand Saint-Thérèse d'Enfant Jésus faisait oraison dans son carnet, vous connaissez l'histoire de la mouche. La mouche, c'est une source d'inspiration vraiment pour les politiques, pour les philosophes. La mouche, c'était une source d'inspiration, par exemple, pour Sartre, les mouches. Et Sartre, quand il voit une mouche, ça lui inspire l'enfer. Et ça lui inspire ceci, c'est que les hommes qui sont autour de nous sont l'enfer. Et que le fait d'être avec les autres, c'est être en enfer. Voilà ce que ça lui inspire, la mouche. Les hommes qui sont autour de nous, bah, c'est des mouches. Hein. C'est comme Belzébul, là. C'est horrible. Ça crache dessus. Ça fait un bruit, c'est pas du tout agréable. Ça, voilà. C'est pas tout à fait ça, je crois, que le vrai philosophe contemple, voit à travers une mouche, un moustique encore moins. Mais Saint-Thérèse d'Enfant Jésus, elle entend la mouche. Vous connaissez l'histoire, l'histoire dit là, Sainte-Thérèse, Thérèse de Lisieux, la sainte de l'abandon total dans les mains du Père, celle qui a découvert les secrets les plus simples et les plus définitifs sur la miséricorde éternelle de Dieu. Il y a une mouche qui arrive dans la chapelle. Elle peut oraison. Et la mouche qui fait oraison, ça lui rappelle que la miséricorde de Dieu transforme son cœur dorante et lui fait comprendre qu'il faut prendre le vol, le bruit de la mouche dans la grande harmonie céleste pour le faire introduire dans la grande symphonie à la louange de la grâce de Dieu. Et elle rythme son oraison des dons du Saint-Esprit au rythme de la mouche. Génial. Quand vous avez une mouche, vous regardez si en tout, sur l'effigie de la pièce d'argent, c'est César ou si c'est Dieu. Il n'y a pas de possibilité, pas trois possibilités. Ou bien, il y a la vision. Aujourd'hui, c'est les pièces de 10 francs. Hein? Un autre jour, vous savez. Je passais le péage à Brignoles. Bon. Et puis, vous connaissez l'histoire quelques-uns ? Et puis, il n'y avait pas la queue. Voilà. Le pauvre garçon qui était là, c'est 22 francs. Très bien. Mais je donne 22 francs. Deux pièces de 10 francs, deux pièces de 2 francs. Et puis, je dis à quelqu'un, je ne m'en vais plus. Je regarde, il avait l'air sympathique. Alors je dis, dites-moi, c'est votre métier de ramasser les pièces de 10 francs comme ça, tout le temps. Il dit, bah oui. Bah, je dis, vous savez ce qu'il y a sur les pièces que vous avez, là, de 10 francs ? Et de qui est l'effigie de ces pièces pour lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous travaillez, dans lesquelles vous travaillez, palpez tout le temps, au service desquelles vous êtes, tout le temps ? Comment ça m'a regardé dessus ? Oui, vous savez bien que. Enfin, moi, hein, je me cache pas. Elle dit, vous savez, là, Jésus, il dit, montrez-moi votre pièce. Il dit, c'est quoi l'effigie ? C'est César. Vous vous rappelez ça ? Vous connaissez. Hein. Il n'y avait pas, il y avait personne derrière. Hein. On a pu continuer. Et alors, j'étais avec toi, Emmanuel, c'est ça ? C'était avec toi, Emmanuel. Ouais. Et alors, je dis. Je lui dis, écoutez, de qui est l'effigie ? Alors, quel service que vous êtes ? Elle dit, ben, vous voyez pas quoi, vous voyez pas qui c'est ? Elle me dit, je vois un ange. Ah, un ange ? Et vous savez pas son nom ? Elle dit, ben, si, je vois des ailes, je sais pas qui c'est. Ah ben, et vous voyez quoi ? Vous voyez pas qu'il porte la lumière ? La lumière. Vous voyez pas qu'il court sur l'orbe de la terre ? Vous voyez pas qu'il fait un sexe mâle ? Vous voyez pas qu'il y a l'étoile à 6 branches sur le front ? c'est les six attributs de Lucifer. Alors, je dis, rendez à Lucifer ce qui est à Lucifer, et à Dieu ce qui est à Dieu. Au revoir, monsieur. Ce qui est à Dieu. Au revoir, monsieur. Aujourd'hui, c'est plus César qui est prince de ce monde, c'est Lucifer. Directement. C'est génial. Et pour nous, cette mouche, le Belzébuth, qui est là jusque sur nos effigies, sur nos symboles de l'État, de nos capitales, de tous nos fruits monétaires, du dollar, par exemple, un dollar. Où Satan règne directement, dans sa symbologie extraordinaire. Cette mouche-là, elle ne nous gêne pas. Elle ne nous aime pas du tout. Lucifer ne nous aime pas du tout. Lucifer ? Nous aussi, Lucifer ! Oh, Lucifer ! On n'a pas du tout peur de lui. Jésus nous a plantés, si vous voulez, dans une royauté éternelle qui est au-delà de ce monde cosmique. Dès que nous sommes en Jésus, c'est le cosmos qui explose. Ex, tout le cosmos était. Car il est pitié. Vous êtes arraché à ce monde cosmique. Et Lucifer, le mal, si vous préférez, il se contente d'avoir sa petite action relative, partielle, uniquement à l'intérieur de ce monde cosmique. Mais nous sommes en dehors de ce monde cosmique. Le tout que représente l'univers n'est rien pour Dieu. C'est ça que la spiritualité qui consiste à s'identifier au tout, c'est une spiritualité qui consiste à se mettre entre les mains de Lucifer. La grande nouvelle spiritualité, tout l'être dans le tout qu'est l'univers, dans le tout lumineux qu'est l'univers. Lucifer, c'est la lumière qui roule et qui fait l'unité de ce monde créé par Dieu. Et nous sortons de ce monde cosmique, nous ne voulons pas nous arrêter à ce monde cosmique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Lucifer, pour nous, si vous voulez, peut être un symbole. Si vous voulez. C'est un symbole au moins qui nous fait comprendre, à titre de symbole, vous avez des réalités derrière lui, à titre de symbole, il nous fait comprendre quelque chose. Il nous fait comprendre que malgré lui, il est au service des saints. C'est un bon service. De même que le péché, le mal que nous faisons, est au service du Christ. Nous donnons nos péchés. Nous donnons nos fêlures. Nous donnons nos limites. Nous donnons nos maux, nous donnons nos omissions, nous donnons notre imperfection. C'est ça que nous donnons. Et c'est au service du Christ. Le Christ prend ça et fait flamber et remplace nos fautes, nos omissions, nos manques, nos vides, nos vacuités, nos péchés aussi. En gloire du Saint-Esprit. Et ce qui est très limité, nous trouvons très limité. C'est rien du tout. Il y a des gens, vous savez, qui considèrent que leurs fautes sont énormes. Et qu'ils sont très très originales d'avoir fait ce péché à temps. Il suffit de confesser un tout petit peu pour voir que ce péché-là, c'est pas original du tout. Mais vous n'êtes pas du tout original. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est drôle quand je dis ça. Les gens qui disent, ils sont là, mon Dieu, je vais sourire, c'est affreux. Alors, on fait comme Nietzsche, vous savez, on fait un drame, une tragédie. Sentiment de culpabilité gonfle jusqu'à faire éclater le bonheur. Et puis, la grenouille se fait aussi grosse que le bœuf. Puis là, ce que vous dites, non, c'est pas original, on sent ça. Ils sont complètement dépités. Complètement. Ils ont l'impression de plus exister, d'avoir l'air idiot. Pourquoi ? Parce que, à travers cette faute qu'on fait, ces imperfections qu'on a, on croit qu'on est original. On n'est pas plus original. Rien d'original.
cette petite orésie-là, c'est une visite de la miséricorde de Dieu. C'est une visite de la miséricorde. La miséricorde de Dieu fait que si on donne dans notre état d'imperfection, tel qu'on est, pauvre type, pauvre femme, eh ben, on se met entre les mains de Jésus, dans le cœur de Jésus. À ce moment-là, on veut bien que ce soit à partir de nos pauvretés, à partir de nos pauvretés, que se réalise la richesse éternelle de la gloire de Dieu pour nous. Dieu n'attend pas du tout qu'on fasse des actions de beauté, de splendeur, d'unification des énergies, de pacification et d'unification de la lumière, du diaphane cosmique. C'est complètement ça. Il ne prend pas nos vertus, nos qualités. C'est pas à partir de nos qualités que Jésus fait quelque chose de glorieux. C'est pour ça que ça devrait être tout de suite. Vous, les pharisiens. Les pharisiens pensent que Dieu s'intéresse à leurs qualités. Pas du tout à nos qualités, mais pas du tout. Ils s'intéressent à notre capacité de recevoir Dieu. Et notre capacité de recevoir Dieu, c'est justement cette impossibilité d'être parfait dans la sainteté. C'est donc notre péché qui intéresse Dieu, parce que c'est là qu'il vient brûler de gloire. Et c'est là qu'on peut transplanter le cosmos en dehors du cosmos, dans la gloire éternelle de Dieu, en dehors de ce monde spatio-temporel. C'est ça notre grandeur. Notre grandeur, c'est qu'on peut donner à Jésus ce qu'il ne peut pas avoir. C'est ce qu'on appelle nos limites, nos péchés. Il faut le donner, ça. Et il faut être heureux, j'allais dire, d'avoir ces petites imperfections ou ces grandes imperfections ou ces tangentes. Mais il faut les reconnaître. Il faut dire, mais oui, ce sont vraiment des imperfections. Et c'est là, justement, la grande prophétie que le pape nous a fait cette semaine avec l'encyclique. C'est ça la grande, le grand message de l'encyclique, la Veritatis Splendor. C'est que là, les choses qu'on fait qui sont bien, c'est d'accord, les choses qu'on fait qui sont objectivement mal. Alors, ne dites pas, ah oh non, le mal n'existe pas, oh non, si mon intention c'était sincère, c'est donc que c'était pas mal. Non, c'est mal. Ce qui est mal est mal. Ça péché, c'est tout. Commandement contre un commandement, je dois affirmer, c'est mal, ça péché. Et il faut que tu prennes le péché tel qu'il est, c'en est un. L'éthique, la morale doit exister, il faut être ferme là-dessus pour garder les commandements de Dieu. Comme disait Mgr Segui, je rappelle, comme il est ordonné, c'est sur une estrade avec une crosse, avec sa crosse comme ça, c'est sa première ordination. Et je vous ordonne, frère, et je vous demande, pour ceux qui savent vous rappeler, de rappeler au peuple de Dieu les commandements de Dieu. Et il a frappé avec sa crosse, une fois, deux fois. Allez. C'est que j'aime bien. Après, t'aimes toujours l'évêque qui lui a donné le pouvoir sacerdotal. Commandement de Dieu. C'est ce que le pape a dit. Oui, il faut garder la morale. Il faut garder ses principes. Que ça, c'est bien. Ça, c'est contraire à la nature. C'est contraire à l'adoration. C'est contraire à la vie chrétienne. Ça, c'est contraire. Gardez-le et soyez net là-dessus. Parce que c'est grâce à ça que c'est ça que vous pouvez donner au Christ pour que l'Esprit Saint puisse se manifester. Parce que c'est avec vos faiblesses que Dieu se glorifie dans la miséricorde en vous. Et que Dieu se plante en vous éternellement. Et qu'il est glorifié dans les saints. Les saints sont ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et qui aiment ça. Et qui savourent la présence du Saint-Esprit dans leurs plaies. Dans leurs incertitudes. Et ils savent dire tout le temps, ah, je suis pauvre, Seigneur, complète à l'infini ce que je suis. Dans mon imperfection, je suis mis là, et c'est génial parce que grâce à ça, je sais que tu veux, tu peux, à partir de là, si je te donne, compléter à l'infini. Alors ça y est, il complète à l'infini. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et grâce à Belzébul, grâce
au péché, si vous voulez, eh bien, je me mets au rythme de mon péché pour chanter la miséricorde de Dieu. Et alors l'Esprit Saint peut être envoyé. Et du coup, j'ai une force incroyable le lendemain pour vaincre le péché. Pour moi-même. Le seul moyen de vaincre le péché. C'est en reconnaissant que c'est un péché. Mais si tu dis c'est pour un péché, c'est rien. Faut être tolérant. Le pape dit non avec la force de la crosse. Si vous dites ça, c'est l'humanité qui rentre dans la civilisation et la culture de la mort. Et ça, l'Église ne peut pas le permettre, ne peut pas le supporter. Quand il est en Lituanie, il a dit en Lituanie des dizaines de fois, après Denver, l'Église rentre en guerre. Les jeunes, l'Église et le pape rentrent en guerre contre cette civilisation de mort. Les Américains, c'est très embêté. Parce que c'est là, c'est vrai, c'est une civilisation de la mort. Et le seul moyen, c'est de reconnaître cette civilisation de mort. Si on veut glorifier Dieu, c'est le premier temps. Le second temps, c'est qu'il faut donner tout à la miséricorde de Dieu. Le troisième temps, c'est de recevoir du coup la puissance du Saint-Esprit. Le quatrième temps, c'est qu'avec la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes en dehors du monde cosmique et du coup, nous sommes en dehors de la tentation. Fort contre la tentation. C'est les trois temps de la vie chrétienne, la foi, l'espérance, la chanson. Il n'y a pas d'autre voie. Et celui qui nie le commandement de Dieu ne peut pas pénétrer dans le royaume de Dieu. Il reste enfermé dans ce monde cosmique. Il rentre dans une mystique de la tolérance. Et quand vous rentrez dans une mystique de la tolérance, vous êtes fichu. Quant à votre destinée éternelle, vous êtes fichu. La tolérance, c'est l'antithèse de la miséricorde. Hein, c'est le contraire à ce qu'on entend dans les masses médias. Hein. Et en faisant ça, le Saint-Père fait l'œuvre de parole de Jésus sur la terre, de prophète, de témoin, de prêtre. Et c'est pour ça que nous voulons le suivre et être précis, très précis, très clair, vrai. Tandis que les Juifs et les Pharisiens, les serpents, est-ce qu'on peut rendre la foi à César? Jésus, c'est clair. L'Église, c'est clair. Le chrétien, c'est net. S'il a péché, il a péché. Si c'est un saint, c'est un saint. Il le sait. Si c'est un saint, tant mieux. S'il est pécheur, encore mieux. Ils s'en fichent. C'est Dieu qui compte. Mais en tout cas, il part, il accepte la vérité. Il aime la vérité. Parce qu'il aime Dieu. Alors c'est pour ça que je crois qu'il faut se mettre derrière le pape et comprendre que notre monde aujourd'hui avec ses aspirations de paix mondiale, avec ses aspirations de solidarité internationale, de gouvernement mondial, cet esprit-là, cette culture-là, ne peut avancer en toute vérité que si elle est finalisée par un repli de l'univers sur lui-même en dehors de Dieu. Que nous ne voulons pas servir un projet pareil, même si apparemment, psychologiquement, dans une mystique subjective, si vous voulez, ça peut être attirant, non? Et on échappe à ça par les commandements de Dieu. Et le premier commandement de Dieu, c'est d'adorer. Et adorer Dieu, ça prend. Il faut adorer Dieu, il faut savoir quand on adore Dieu, on sort de ce monde des énergies, on sort de cette mystique subjective, de ces impressions d'être des saints. Pour entrer dans la vérité, nous sommes des créatures et nous ne sommes pas très originales parce que les fêlures de la faute sont en nous. et nous sommes porteurs du sang de nos frères. Et du coup, nous ne pouvons qu'adorer et nous mettre sous la dépendance de celui qui est au-delà de ce monde, au-delà du temps. Et nous mettons sous sa dépendance par amour. Nous nous habituons à vivre en dehors de cette préoccupation d'un monde qui est replié sur lui-même. Pour faire exploser ce monde et qu'il n'y ait plus que Dieu, qu'il n'y ait plus que le Père, qu'il n'y ait plus que l'Esprit Saint, qu'il n'y ait plus que Jésus ressuscité. À ce moment-là, notre cœur explose. Et je crois que c'est ça. Le grand message du pape de cette semaine avec Veritatis Pandor. Alors c'est beau, c'est viril, c'est bien carré, ça fait plaisir. Dans un monde où les prophètes médiatiques sont les gélatines filandreuses, molasses et élastiques. Ça fait plaisir de voir enfin un homme debout. Alors moi, je suis tout à fait d'accord de me mettre sur les épaules, de courir derrière tant que je peux. J'espère que je ne serai pas seul. On est multitude. Voilà. Et si vous voulez bien, on va accepter aujourd'hui de rentrer dans cette perspective, comme disait la deuxième lecture, de certitude absolue. Une perspective extraordinaire de totale certitude. Notre annonce, en effet, chez vous, n'a pas été une simple parole, mais elle est puissante, action de l'Esprit Saint, totale certitude. Parce que, frère bien-aimé, vous avez été choisi par Dieu. Et Dieu est tout autre que ce que vous pensez. Et c'est Dieu qui t'a choisi. Et je prends conscience que Dieu m'a choisi. Je le sais maintenant. Et du coup, je le suis. Ça y est, la transformation, à partir du mystère de l'Eucharistie, du jour du Seigneur, du premier jour de cette semaine, opère une transformation totale. Et j'échappe aux préoccupations de ce monde bête et méchant. Je plonge en Dieu, et du coup, j'emporte avec moi le monde bête et méchant en Dieu. Et voilà, je change de vie. J'ai été choisi pour ça.